m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Cette émission est une rediffusion. Bonjour, bonsoir. Sorti en 2006 avec de vrais tubes comme La Lettre ou Les Voisines, son premier album s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires avec à la clé deux victoires de la musique. C'est que Renan Luce est entré dans nos oreilles avec ses chansons légères et capricantes en mode portrait ou en petit récit au faux air de vraies nouvelles qui lui ont permis de s'installer sans coup faire rire sur les devants de la nouvelle scène musicale française. Et le voici de retour, barbu à présent, sur la couverture d'un album en forme de journal intime, un voyage intérieur à travers 11 chansons qui lui ressemblent et qui sont pourtant d'une tonalité un peu plus grave qu'à ses débuts. Renan Luce est donc avec nous, il vient nous présenter son 4e opus qui est sorti chez Barclay, et vous m'en direz des nouvelles.
Est-ce qu'on peut reprendre au début, reboire le vin que l'on avait bu? Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille luttant contre le sommeil? Est-ce que jusqu'au mot fin on tient?
Bonjour Renan Luce.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut reprendre au début? C'est ce vers qui ouvre cette chanson et qui ouvre l'album. Alors dans ces quelques mots, on sent un zeste d'espoir, mais on sent aussi une forme de regret. C'est vrai qu'on est assez loin de cette légèreté qu'on avait l'habitude souvent d'accoler à vos chansons. Qu'est-ce qui a changé?
Eh bien, je pense que j'étais simplement moins nourri de choses légères au moment où j'ai écrit toutes ces chansons. C'est vrai que vous évoquiez un voyage intérieur. Ça a été le cas pendant toute l'écriture de cet album et qui a été teinté par une séparation et par du coup une... Voilà, des émotions fortes et profondes qui m'ont traversé pendant toute cette période-là. Et sans l'avoir prévu au départ, c'est vrai que chaque chanson, les unes après les autres, sont teintées de ces sentiments-là. Un peu en clair-obscur, c'est vrai, qui sont pas non plus un apitoiement, mais plutôt non. Une espèce de, oui, des petits bilans que je fais sur ma manière de vivre les choses, une manière de s'adresser à moi-même, à ma fille, à sa maman. Voilà, je voulais en faire un disque intime et qui me ressemble, en tout cas qui ressemble à cette période que j'ai traversée.
Donc l'album de la séparation d'avec Lolita Séchant, la fille du chanteur Renaud. À quel moment est-ce que Renan Luce, vous vous êtes dit, eh bien, de cette aventure un peu triste qui m'arrive, je vais en faire des chansons?
Je crois que je me le suis jamais dit, parce que une première chanson qui s'appelle Le Vent Fou, qui est vers la fin de l'album, est apparue un peu suite à ces moments-là, et que j'avais l'impression que j'avais du coup pu exprimer voilà mon ressenti vis-à-vis de tout ça, et je pensais pouvoir maintenant écrire sur autre chose, et en fait une deuxième chanson est arrivée, puis une troisième, jusqu'à ce que ce thème recouvre pratiquement l'entièreté de ce disque. Donc c'était pas un choix de me dire je vais faire un album et traiter de ce sujet-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est que j'avais très envie d'ouvrir une porte plus vers des choses personnelles. C'est vrai que jusqu'à présent, vous le disiez aussi, j'écrivais beaucoup des portraits, des histoires. J'aimais bien la loufoquerie, m'inventer des personnages loin de mon quotidien, m'inventer des aventures qui ne sont pas les miennes. J'aimais bien cette position de conteur en tant qu'auteur de chansons. Et que j'avais quand même je nourrissais ce petit regret d'avoir l'impression de pas savoir écrire sur les choses plus intimes. Donc en revanche, je savais que je voulais aborder ça. Et comme dans ma vie, l'intime, c'était cette séparation, la voilà qui se retrouve un peu partout dans les chansons de ce disque.
Mais est-ce que justement la souffrance, la douleur amoureuse, ça rend l'instant fécond? Est-ce que c'est un état d'esprit qui permet justement d'écrire, qui permet de composer, d'écrire des notes ou d'écrire des mots?
Je crois que c'est en tout cas propice à l'introspection et donc du coup à se questionner, aller un peu au fond des choses, et je trouve que c'est toujours une démarche qui mène à l'écriture quand on arrive à s'enfouir un petit peu en soi-même, c'est là que, voilà, les, en tout cas pour moi, que les images arrivent que la finesse aussi, en tout cas le pas de côté nécessaire, je trouve, pour écrire des chansons arrive aussi. Donc voilà, tout était certainement rassemblé pour que cet album ressemble à ce qu'il est devenu.
On dit souvent que les plus belles chansons sont des chansons de rupture. C'est quelque chose que vous partagez ou...
Alors, en tout cas, dans mon panthéon à moi, des chansons que j'ai peut-être le plus écoutées, il y a effectivement foule de chansons tristes et qui expriment, oui, le dépit amoureux, oui.
Et pourquoi ? C'est très étonnant ça d'ailleurs. Pourquoi est-ce que la joie, finalement, touche moins en chanson que la douleur, que la souffrance, qu'un moment de détresse ?
Est-ce que ça touche moins? Je sais pas. Je pense que l'émotion qui étreint, enfin en tout cas l'émotion de tristesse, elle a quelque chose peut-être de plus sourd et de plus poisseux. Donc ça nous reste peut-être un peu plus longtemps au cœur, alors que les émotions de joie, c'est des choses éclatantes, un peu plus vives et qui peut-être qui nous marquent de manière forte, mais de manière plus fugace. Peut-être ça peut être une des explications.
Et est-ce qu'on écrit de la même façon, Renan Luce, quand on parle des autres, quand on raconte des histoires avec un regard extérieur, que quand on parle de soi?
Alors moi, j'ai été très habité par une notion de vérité, de sincérité quand j'écrivais. Donc forcément, il y a peut-être des allers-retours avec soi-même un peu supplémentaires par rapport au fait d'écrire, d'inventer, de se laisser porter par l'imaginaire. Là, je voulais regarder les sentiments qui me traversaient vraiment droit dans les yeux, leur faire honneur presque, pour pas, parce qu'ils étaient, c'était des sentiments forts et que je voulais pas sombrer dans la facilité de les amoindrir ou, voilà. Donc forcément, ça nécessitait peut-être un peu plus de précision, moins me laisser porter par ce que je fais souvent, par les rimes, parce que ça m'est arrivé souvent en écrivant des histoires qu'une rime m'amène ailleurs, et puis pourquoi pas, parce que la magie de l'écriture c'est aussi ça. Là je me posais souvent la question, est-ce que je suis pas parti trop loin de mon émotion de départ?
Quelle idée d'aller à Berlin, ta mère et moi tenant ta main, comme une béquille bancale famille, on fait comme si rien n'est détruit. Toi qui ne connais pas l'histoire, on te raconte cette nuit noire. Un mur hideux, c'est si facile, coupé en deux. Comme ça une ville. Mais nous, c'est pas Berlin, il n'y a rien qui nous sépare. Ou que tu t'endormes le soir, nous, c'est pas Berlin. Ne vois pas un mur qui se dresse, des sommeils à deux adresses, des parpaings empilés si vite, puis cette rumeur qui s'ébruite avec le jour qui vient à peine. Les gens accourent quand ils comprennent, on te raconte les années sombres, le long du mur glissent des ombres. Pour une absente de l'autre côté, tous ceux qui tentent de le sauter. Mais nous, c'est pas Berlin, il n'y a rien qui nous sépare. Ou que tu t'endormes le soir, nous, c'est pas Berlin. Ne vois pas un mur qui se dresse dans tes sommeils à deux adresses.
Berlin, Renan Luce, notre invité aujourd'hui sur RFI. Berlin, une chanson très visuelle qui évoque la séparation et en même temps le lien, toujours très fort, qui unit ses parents et une petite fille. C'est à elle d'ailleurs que vous dédiez cet album, hein, Renan Luce. Elle s'appelle Héloïse. Vous le lui dédiez Où que tu t'endormes ce soir, c'est ce qui est écrit sur le livret. C'est aussi pour elle que vous avez fait ce disque?
Je sais pas si j'ai eu cette démarche là, non, c'était il y avait un côté un peu pansement pour moi, je pense aussi les émotions quand elles sont fortes, elles ont tendance peut-être aussi à occulter tout le champ de vision, donc peut-être n'avais-je pas le choix que de parler de tout ça. En revanche, c'est vrai que cette chanson-là particulièrement, enfin, j'avais à cœur de trouver ma manière à moi de lui exprimer effectivement ce lien qui est très fort qui est toujours là, quelle que soit notre vie aujourd'hui. Alors évidemment, c'est des choses dont on a parlé avant, sans chanson, hein, je me sers pas que de cet outil-là pour lui expliquer les choses, mais j'avais à cœur de trouver des images qui lui parleraient. Et puis c'est aussi le fruit d'une histoire vraie, c'est-à-dire qu'on est vraiment partis tous les trois peu après notre séparation à Berlin, et en revenant de ce petit week-end qu'on avait prévu justement pour continuer à faire des choses ensemble, m'a sauté au visage ce parallèle entre cette ville, ce mur, son histoire et notre situation d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai trouvé que l'image nous décrivait bien.
Mais c'est vrai que la vie quotidienne, ce que vous avez vous-même personnellement vécu au-delà de cet album, hein, ça, c'est vraiment des éléments qui comptent dans votre façon d'écrire des chansons. Il y a un petit côté de l'hermien aussi, mmh, hein, dans votre écriture, Renan Luce, vous êtes d'accord?
Bah oui, parce
peut-être
que
plus Philippe l'écrivain que Vincent, mais même un peu les deux.
Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je puise dans l'instant. Hein, l'écriture, c'est vrai que je suis pas trop dans ma manière de travailler. Quelqu'un qui note beaucoup en amont, plein de choses, des images, des choses. Je suis plus dans l'instant, une émotion qui va arriver, très liée aussi à la musique, évidemment, parce que c'est très rare que j'écrive un texte sans avoir très rapidement pris, enfin, m'être mis au piano, en l'occurrence, parce que dans cet album, j'ai beaucoup composé au piano, mais un peu à la guitare aussi. Mais donc ça se lie à ça, une émotion du moment, un instrument, une mélodie, des mots qui arrivent, ça s'imbrique, donc c'est toujours très proche de ce que je suis en train de ressentir au moment où j'écris, donc forcément ce sont les petits éléments, les petits déclencheurs qui amènent les chansons, des images très claires de ce que je suis en train de vivre, oui.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous arrêtez, vous prenez des notes d'une façon ou d'une autre, et vous vous dites, ah, ça c'est une idée de chanson, c'est un petit élément qui va me permettre d'écrire un vers, vous le gardez au fond de vous et ça ressort
non,
après?
Non, parce que là, j'ai fait ça en direct, encore une fois, je note peu de choses en amont, c'est vraiment, quand j'ai l'idée, je me mets au piano, je prends mon carnet, et je fais la chanson, en fait. Alors, je la termine pas forcément tout de suite, mais j'ai plutôt au moins un premier geste un peu complet où il y a déjà une mélodie, un début de parole.
Ça commence par la mélodie?
Non, en général, il y a quand même deux, trois vers. Dès que je sens qu'il y a quelque chose, voilà, je fais en sorte que je puisse en même temps être en train de chercher la mélodie, continuer à écrire, et les choses s'imbriquent un peu comme un puzzle, un peu.
Alors, vous êtes celui qui a écrit tous les textes de cet album, sauf une chanson qui s'appelle « Du champagne à 15h », une chanson qui parle d'une scène qui n'a pas existé, hein, pour le coup. Hein,
En fait, si.
Là, si. Parce que j'aurais aimé, si tu me le demandes, être le genre de garçon qui commande du champagne à 15h. Donc, j'aurais aimé. Ça veut dire qu'a priori, ça s'est pas passé.
Effectivement, oui. C'est une chanson sur le lâcher prise, d'une certaine manière. La capacité qu'on a ou pas à prendre les moments comme ils se présentent, dans leur légèreté, sans trop se remettre en question. Je disais que ça a vraiment existé parce que Pierre-Dominique Burgot, qui m'a écrit ce texte, à noter ce bout de phrase qu'on a eu ensemble alors qu'on prenait un café une après-midi, et qu'à côté de nous il y avait une table avec deux jeunes femmes qui buvaient du champagne en riant aux éclats, et on se faisait cette réflexion que nous on avait ce sérieux, ce manque de lâcher prise qui fait que on se retiendrait peut-être dans ce genre de situation, et en se disant, ah non, mais si je bois maintenant, je vais pas être efficace cet après-midi. Voilà, ce genre de réflexion qu'on peut avoir quand on manque parfois du petit lâcher prise nécessaire pour vivre pleinement les belles choses de la vie.
Pierre-Dominique Burgot, qui a entre autres travaillé avec Louis Chédid, avec Alain Chamfort, avec Johnny Hallyday, avec Alain Souchon aussi. Et c'est vrai que ça peut surprendre au milieu d'un disque aussi intime, aussi personnel comme ça, parce que c'est vraiment au milieu de l'album en plus, hein, une chanson qui n'est pas 100% du Renan Luce.
Ouais, mais je crois qu'elle l'est devenue aussi. Encore une fois, l'histoire fait que l'idée est arrivée ensemble, que c'est suite à quelque chose qu'on a vécu tous les deux. J'ai beaucoup d'affection aussi pour Pierre-Dominique Burgot, donc il y a quelque chose quand même d'intime pour moi dans notre relation. Je pense que lui, il a eu à cœur aussi de mettre le doigt sur quelque chose qui me correspond et qui le correspond aussi. Et c'était peut-être aussi ma manière dans ce projet de dire que la musique avait une place peut-être différente et qu'elle exprimait aussi quelque chose et que du coup, je suis beaucoup plus enclin, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. J'ai jamais souhaité ni même imaginé prendre le texte de quelqu'un d'autre. Et là, c'est moi qui avais fait la démarche parce que je lui avais déjà demandé depuis un an ou deux de si une idée lui venait de m'en faire part. Donc je pense que j'étais prêt pour ça et c'est parce que c'était lui, je pense aussi.
Et inversement, écrire pour les autres ?
Ça m'est arrivé un petit peu. Là, j'ai collaboré un peu à quelques textes sur l'album d'une jeune chanteuse qui s'appelle Alma Forer. Donc de temps en temps, selon les rencontres, je suis évidemment pas contre, j'aime bien. C'est vrai que c'est l'écriture pour mes propres chansons occupe beaucoup mes pensées. J'ai parfois l'impression que je peux pas me diluer, mais en fait, je pense que c'est un tort. Je crois qu'au contraire, ça nourrit un peu le muscle et c'est bien de se glisser dans la peau d'autres personnes.
Mais écrire pour soi et écrire pour les autres, c'est la même chose ?
Non, je trouve que c'est assez différent. Ça offre peut-être une liberté nouvelle d'écrire pour les autres parce qu'on n'est pas contraint par ce qu'on imagine de soi, ce qu'on aimerait présenter de ce qu'on est. Donc il y a des champs des possibles qui s'ouvrent, c'est assez agréable.
J'ai d'abord entendu sa plainte grandiose, contaminant alors tout ce qui s'interpose et les choses et les gens. Puis je suis allé voir les arbres qui ploient, me sentant solidaire, car ça m'arrive moi peut-être trop souvent. Fermer tous les boutons, remonter haut le col, précaution inutile, ce cheval sans licole par-dessus les enclos. S'immisce partout encore plus à mon âme, et fendant tout à coup, pareil au brise-lames, ce que j'ai de sanglots. Un vent fou s'est levé, un vent fou s'est levé. Mais qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu veux? C'est trop tard pour les braises, trop tard pour le feu, fallait souffler avant. Être plutôt le meunier à piler sa farine, fait glisser le voilier sur l'onde marine et fiche-moi la paix. Sème des pissenlits si ça t'occupe, porte des voix, soulève des jupes, fais danser des cheveux. Fais tomber un fruit sur le prochain Newton, mais retiens tes poumons qui m'annoncent que l'automne est tombé sur nous deux. Est tombé sur nous deux.
Cette émission est une rediffusion. Le vent fou, nouvel extrait du nouvel album de notre invité Renan Luce, album disponible chez Barclay. Est-ce qu'on peut dire, Renan Luce, que cette chanson-là, Le vent fou, qui donc était la première, hein, ce que vous nous disiez au début de cette émission, résume finalement cet album?
Je crois, j'ai d'ailleurs failli appeler cet album Le vent fou parce que je trouve que c'est la bonne image qui correspond à ce que j'ai le sentiment d'avoir vécu, quelque chose qui balaye. En tout cas qui donne le sentiment de balayer l'entièreté de ce qu'on est, alors ce n'est évidemment pas le cas et on a un peu l'impression que les choses sont éparpillées, qu'il faut un peu aller tout regrouper pour que sa vie puisse reprendre. Donc oui, ça le résume, y compris peut-être aussi dans la forme musicale, parce qu'elle a vraiment clairement pour le coup cette forme orchestrale. L'arrangeur Robin Trouillet a tellement bien figuré, je trouve, le vent, les battements du cœur.
Oui, pleine d'évocation.
Et effectivement, c'est vraiment clairement là où je voulais aller dans l'utilisation de l'orchestre pour cet album.
Et pourtant, cet album n'a pas de titre. Vous ne l'avez pas intitulé Le vent fou. Il est juste intitulé Renan Luce, qui est plutôt un beau titre, vous allez me dire. Mais pourquoi s'appelle-t-il seulement ainsi?
C'est vrai que je crois que j'ai pas une réponse très claire là-dedans.
Alors pourquoi vous avez écarté Le vent fou alors?
Non, mais en fait c'est plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que quand j'ai évoqué les différentes possibilités, j'avais soit Le vent fou, parce que souvent je donne le titre d'une des chansons à l'album, j'aime bien cette idée. C'était celui qui me paraissait le plus évident pour les raisons que je viens de donner. Et puis un peu après, l'idée d'un album qui porte mon nom, voilà, m'est apparue et je me suis dit s'il y a bien un moment où j'ai fait part de qui je suis, comment quels sont mes sentiments, quel est mon fort intérieur, c'est bien dans ce disque-là. Je trouve que ça justifiait qu'on a le droit une fois dans sa carrière à un album éponyme et que ce serait celui-là.
Voilà, voilà, avec un titre, enfin une pochette en noir et blanc, un titre en blanc extrêmement clair. Et la photo, alors c'est assez drôle parce que la photo, elle est légèrement floue, très légèrement floue. Est-ce que c'est le signe, Renan Luce, que une fois l'album terminé, les choses ne se seraient pas complètement éclaircies?
Alors, c'est déjà vrai dans les faits. Les choses ne s'éclaircissent jamais, je trouve, après une période comme celle-là, parce qu'il y a toujours des choses qui nous ramènent au passé, des regrets, et puis des choses qui sont préservées, heureusement, un lien, une histoire, qui feront que j'aurai sans cesse des retours vers cette histoire-là.
On ne tourne jamais complètement la page.
Je n'ai pas l'impression, et je pense qu'on a raison, parce qu'on grandit de ces histoires-là, et on s'en sert pour les prochaines histoires, qui ne manqueront pas d'arriver, évidemment.
Mais cet album, c'est aussi une histoire en tant que telle, une histoire, Dieu sait si vous en avez compté, une histoire, ça se construit. Comment est-ce que vous l'avez construit, cet album? Parce que l'ordre des chansons n'est pas anodin.
Non, c'est vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à choisir un ordre qui raconterait une sorte de voyage. Je me fais moi-même, effectivement, ma propre histoire des différents états dans lesquels je suis passé, et j'ai l'impression d'avoir respecté ça, et alors que bizarrement, c'est pas dans l'ordre dans lequel j'ai écrit les chansons, mais je crois que quand j'écris, parfois j'écris comme une réminiscence d'un moment qui s'est déroulé il y a un mois ou un an. Parfois, j'écris en prévision de ce qui peut arriver. Donc, finalement, l'ordre chronologique d'écriture n'est pas forcément le plus réaliste dans ce que j'ai vécu. En revanche, cet ordre-là, je trouve, décrit bien les choses, oui.
Bah, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Cette musique » qui sépare deux autres titres qui ont un peu l'air de se répondre. Il y a « Enfant des champs », hein, et citadin. Donc on voit effectivement deux réalités complètement différentes, et entre ces deux réalités différentes, il y a cette musique. Est-ce que c'est la musique qui vous a fait passer de l'état d'un enfant de la campagne à un adulte de la ville?
Ah, c'est une bonne analyse, parce que c'est vraiment clairement ça. Je suis parti de chez moi à 17 ans, et dès que j'ai commencé mes études, je me suis mis à écrire mes premières chansons, à jouer dans des bistrots, avec un projet comme ça qui m'habitait depuis l'enfance, et même depuis la petite enfance, j'ai nourri ce rêve de devenir chanteur, parce que j'ai eu, un choc en écoutant d'autres, et que je me suis construit dans cette démarche-là. Donc évidemment, tout m'a amené à arriver un jour à Paris, à mettre en place des rencontres qui m'ont amené à faire mon premier album, c'est certain, oui.
Et pourtant, citadin, c'est une façon de dire que la vie en ville, ben, elle est un peu absurde, quoi. Elle est pas...
C'est une chanson, effectivement, qui souligne cette absurdité-là, mais peut-être qu'elle n'existe, cette absurdité, que si on a grandi à la campagne, comme c'était mon cas, et d'avoir, sans m'en être rendu compte à l'époque, une connexion avec la nature qui se perd, en tout cas des réflexes, une manière d'observer le cycle de la nature. Et maintenant, ça fait 15 ans que je vis à Paris, et j'ai l'impression d'être bien déconnecté de ça, sans pour autant me dire que je vais tout quitter. C'est juste le cas. Je la note parfois. Il y a comme une espèce de chose un peu sourde, une tension, je trouve, de se sentir éloigné de choses qu'on connaissait par cœur et qui coulaient de source.
La ville, la campagne, mais aussi d'un bout à l'autre de l'album, l'eau. Et en particulier l'océan, l'appel du grand large dans cette chanson, Le Point Nemo.
À portée de banque populaire ou de Sodebo, au milieu de l'eau, à l'endroit où plus une terre ne renvoie d'écho, y a le Point Nemo. Mais pourquoi alors, nous on reste au port, on ne monte pas à bord d'un bateau. À portée d'un œil que l'on jette sur les étagères, en ouvrant les livres, on voit bien l'histoire se répète, en bonne horlogère, en bon bateau ivre. Mais pourquoi alors, on tolère encore les conquistadors haineux. Le point Nemo, ainsi nommé communément comme un aimant, m'attire. Au point où on en est, au coin où on nous met, au moins au point Nemo parti. À portée de bras que l'on baisse sous les vents mauvais, qu'on nous vaporise, on voit les saisons qu'on nous laisse, loin du mois de mai, du temps des cerises. Mais pourquoi alors, nous on reste au port, on ne monte pas à bord d'un bateau.
Le point Nemo, Renan Luce, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Et cette chanson, elle est intéressante parce que elle montre très bien à la fois votre façon d'écrire, ses assonances, ses allitérations, cette poésie qui intervient tout de suite dans vos mots. Et puis l'orchestration qui est vraiment très particulière et très forte sur cet album, puisque pour la première fois, vous avez choisi d'être accompagné d'un orchestre. Combien de musiciens, Renan Luce?
Une petite trentaine de musiciens, c'est pas un grand symphonique, mais c'est vrai que j'avais à cœur de retrouver des couleurs qui m'ont tellement marqué dans l'enfance, l'adolescence, qui m'ont jamais quitté, de cette chanson orchestrale des années 60 en particulier. Et je crois que pour porter justement des thématiques très intimes, j'avais envie d'une musique qui est ma musique de cœur, celle que j'ai le plus écoutée, qui m'a fait vibrer, et c'est celle-là. Donc, et puis évidemment que l'orchestre a cette capacité à porter les sentiments, à les décrire, et cette finesse, quand on fait appel, en tout cas un bon orchestrateur, comme c'était le cas avec Romain Trouillet, ça a permis un petit peu de faire une caisse de résonance à des sentiments que moi je ressentais de manière très forte et que je voulais ressortir aussi de manière forte.
Alors on va parler justement de votre travail avec Romain Trouillet sur les arrangements, un mot qui vous tient beaucoup à cœur. Serge Laïc, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre. Vous collaborez avec nos confrères de France Musique et vous avez publié récemment aux éditions textuelles un ouvrage intitulé Les arrangeurs de la chanson française, avec le soutien de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Bon, c'est une somme, hein. plus de 2000 pages, c'est absolument énorme. Un travail de recherche qui est passé par quelques 200 rencontres. C'est un livre pour passionnés et un livre signé par un passionné, le passionné que vous êtes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé justement aux arrangeurs, un métier de l'ombre dont le grand public ne connaît pas les principales figures?
Non, il connaît l'auteur, compositeur, interprète comme Renan Luce, c'est vrai. Ou alors, dans d'autres cas, il y a l'auteur, le compositeur et l'interprète, mais celui qui finalement crée le décor, qui crée l'ambiance, eh bien personne n'en parle.
Donc c'est les petites mains de la chanson, et singulièrement de la chanson française, hein, puisque c'est celle qui vous a intéressé dans cet album. Donc des hommes de l'ombre dont les noms en général sont inscrits en petit sur la pochette. En quoi consiste le travail de l'arrangeur? Vous parliez de mise en scène à l'instant.
Oui, alors c'est de créer un décor, une ambiance autour du chanteur à partir de la mélodie qu'il a soit lui-même créée, soit quelqu'un d'autre l'aurait créée. Et donc l'arrangeur finalement crée aussi quelque chose dans une chanson. C'est un métier également de création, d'imagination. Il arrive à suivre ce que le compositeur, auteur, interprète comme Renan Luce a prévu d'avoir à l'écoute.
Donc finalement, il faut qu'il s'adapte à chacun des auteurs dans tous les sens du terme. Alors c'est un métier en soi, arrangeur, Serge Laïc, ou bien c'est une spécialisation que des auteurs, des compositeurs, des interprètes, des chefs d'orchestre peuvent aussi ajouter à leur CV?
Écoutez, je crois qu'au départ, il faut être musicien. Alors la plupart des grands arrangeurs français étaient soit issus du conservatoire,
Donc formation classique.
Mais pas toujours, parce qu'il y a des très grands arrangeurs français, comme tout simplement Jean-Claude Vanier, qui a travaillé avec Gainsbourg, qui est un autodidacte absolu. C'est lui qui a, avec Gainsbourg, fait l'album conceptuel Mélodie Nelson. Eh bien, Vanier n'a jamais été à la moindre école de musique.
Il a tout autodidacte.
Complètement, à 100%. Hein. Il y en a eu d'autres, comme Christian Chevalier, qui a écrit énormément avec Nougaro et avec beaucoup d'autres. Hein. Eh bien, tous ces gens-là, ils n'avaient pas du tout de culture musicale au départ, c'est instinctuel, c'est l'instinct. C'est l'instinct musical qui les a portés à servir, et brillamment. Hein. C'est pas seulement ceux qui ont fait beaucoup d'écoles de musique qui ont été brillants. Il y en a d'autres aussi brillants qui ont jamais été nulle part pour apprendre la musique.
Mais alors, le principal talent d'un arrangeur, c'est quoi ?
De s'adapter justement aux artistes qu'ils vont accompagner. C'est d'être complètement adaptable, on va dire. Quand on accompagne Aznavour, quand on accompagne n'importe quel chanteur, il y a un style du chanteur. Donc il faut savoir s'adapter au style du chanteur. De accompagner Gainsbourg, c'est pas accompagner Aznavour. Et pourtant, il y en a qui ont fait les deux.
Alors, votre arrangeur à vous sur cet album, Ronan Luce, c'est donc Romain Trouillet. Déjà, pourquoi lui ?
Grâce à une rencontre, tout simplement, un manager en commun, parce que mon manager représente beaucoup de compositeurs de musique de film et de théâtre, et parmi eux, Romain Trouillet, qui a surtout commencé par les musiques au théâtre, et depuis aussi quelques années, compose pour le cinéma. Et c'était le moment où je recherchais quelqu'un pour commencer justement à la réflexion, en fait. J'étais encore dans... sans savoir exactement quelle texture de son je cherchais, cette idée d'orchestre me parlait, j'entendais des choses dans des références précises qui, de mon point de vue, allaient bien coller à ce que je voulais entendre.
C'est-à-dire que vous êtes allés chercher tous les deux justement des références qui sont inscrites dans votre culture musicale à vous, dans
oui,
votre panthéon de disques à vous, mais aussi peut-être de ceux qui peuvent écouter l'album.
C'est exactement ça. J'avais des choses à faire écouter à Romain.
Qu'est-ce que vous lui avez fait écouter?
Bon, je pense qu'en premier, la plus grande des influences, ça a été François Robert et sur les disques de Jacques Brel, c'est certain. Mais également aussi Aznavour, Beco, Bourville, dans les petits ensembles qu'il utilisait parfois, surtout des quatuors qui sont très très bien arrangés. C'est ce genre d'ambiance que je voulais retrouver. Mais c'est vrai que chez Brel,
plutôt ambiance années 50, années 60.
C'est, oui,
pas
c'est,
yéyé,
c'est ça.
Hein, pas du tout les
pas années du yéyé, yéyé, hein, c'était vraiment les années 60,
française,
la
variété française,
avec ce qu'elle avait de virevoltant, d'un peu exalté, d'expression des sentiments un peu de manière brute et sans équivoque. Et c'était un peu cette démarche-là que je voulais retrouver.
Serge Laïc, il y a une patte de la chanson française dans ces années-là.
Oui, alors c'est un mélange de classique et de jazz, finalement, et de la culture américaine qui a été transposée en France. C'est à la fois le mariage des deux. Hein. On marie les impressions classiques que l'on a subies pendant ses études, si on en a fait, et le jazz qui a vraiment envahi le continent européen années 30, 40 et ainsi de suite.
Mais vous êtes capable, lorsque vous écoutez un disque d'Aznavour, par exemple, ou un disque de Brel, de reconnaître l'arrangeur. Alors, je parle à quelqu'un qui a consacré une bonne partie de sa vie à la recherche, mais votre oreille, elle est suffisamment formée, même quand vous ne connaissez pas la chanson, pour reconnaître l'arrangeur?
Il y a vraiment des arrangeurs que vous reconnaissez tout de suite.
Par exemple,
Jean-Michel Defaille. C'est celui qui a accompagné Léo Ferré pendant 10 ans, de 1960 à 1970. Quand vous écoutez ces chansons accompagnées par Jean-Michel Defaille, je dis bien accompagné et arrangé. Il n'a pas composé, hein. C'était Ferré qui composait toutes les musiques. Eh bien, vous, si vous avez un peu de culture musicale, si vous avez, vous connaissez un peu le contexte Ferré, eh bien, je vous assure que vous reconnaissez tout de suite Jean-Michel Defaille. C'est extra, avec le temps. La chanson 20 ans, quand j'écoute les deux premières secondes, je sais que c'est Jean-Michel Defaille. Hein. Il a une culture musicale. Alors lui, c'est par contre, il vient du conservatoire, il a eu les plus grands diplômes, il a été second premier Grand Prix de Rome, c'est compliqué à expliquer. Donc c'est quelqu'un qui est immensément cultivé et qui aime beaucoup les cuivres. Mais il est capable d'écrire formidablement pour les cordes. Il sait tout faire. Et il continue d'ailleurs à écrire pour les cuivres. Il se fait plaisir en composant maintenant beaucoup pour les cuivres.
Alors, puisqu'on parle des cuivres, Ronan Luce, comment est-ce que vous avez, avec Romain Trouillet, défini la place que vous accordiez aux cuivres, donc à cette famille des instruments de l'orchestre, parmi les arrangements de cet album?
Elle était assez importante. J'étais persuadé, je ne voulais pas un album uniquement entouré de cordes, et surtout pas dans juste cette idée que les cordes sont là juste pour tapisser le fond, pour faire joli une chantilly derrière. C'était pas l'idée. Je voulais vraiment une vraie incursion de l'orchestre dans la musique, une sorte de dialogue avec la mélodie de chaque chanson. Et les cuivres, pardon, ont joué deux rôles. D'abord, dans un rôle de soutien, de couleur, un peu, surtout avec les cors. On a beaucoup travaillé avec un Romain, beaucoup écrit avec un trio de cors qui mettent comme ça un socle assez chaleureux qui vient pousser la chanson. Et d'autre part, des traits solistes, mais surtout complétés aussi par les bois qui viennent un peu imager. Il y a beaucoup de flûtes traversières, beaucoup de bassons qui donnent tout de suite une... Enfin, qui sont très efficaces dans les contre-champs parce qu'ils ont cette faculté d'être à la fois léger, précis, vif. Et ça, tout de suite, il y a des images qui arrivent. Il y a un dynamisme aussi qui marchait bien avec l'écriture de ces arrangements.
Alors, on va faire une petite expérience à l'instant puisque l'oreille de Serge Laïc a donc été éduquée et nourrie par tout cela. On va écouter une des chansons de l'album de Renan Luce. On s'habitue à tout et vous allez nous dire, Serge Laïc, bon, on sait que c'est Romain Trouillet qui signe les arrangements, évidemment, mais vous allez nous dire s'il y a une inspiration que l'on peut classer dans le sillon de ces grands arrangeurs de Brel, Beco, Aznavour, que sais-je. On écoute.
On s'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élu des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, se passe-t-on de mots doux.
Cette émission est une rediffusion.
On s'habitue à tout.
Alors, Serge Laïc, est-ce que votre oreille s'est dite à un certain moment, ah, ça me rappelle quelque chose?
Il y a un peu de François Robert, je vais dire, dans le...
Oui, c'est certain, dans les harpes.
Voilà. C'est François Robert, qui est l'arrangeur de Jacques Brel, par excellence. Pas seulement, hein, parce qu'il a bossé, il a travaillé avec beaucoup de gens.
C'est un de ceux qui a vraiment fait le plus d'arrangements dans sa carrière par rapport à d'autres. Et donc, en écoutant votre chanson, Renan Luce, j'entends un peu François Robert, effectivement. Mais bon, il y a les cordes aussi qui interviennent à un moment donné. Alors, dire qui a inspiré Romain Trouillet pour les cordes, je peux pas le dire. Par contre, c'est du Romain Trouillet, d'ailleurs, je vais dire.
Ça, c'est certain. Déjà. C'est vrai que dans les influences, là, on évoquait pas mal Beco pour ce côté un peu boléro, évidemment, ouais. On peut retrouver, qui peut faire penser à Et maintenant, bien sûr. Dans le refrain, ce contre-chant à deux cordes à l'unisson, pour moi, c'était... On est plus dans Aznavour, non, qui faisait beaucoup ça, ses cordes
à
l'unisson.
Oui, tout à fait. Je voulais dire Aznavour, mais je l'ai pas dit parce que on n'a pas parlé donc vraiment de Paul Mauriat, qui était l'arrangeur clé de Aznavour.
Et dont vous avez écrit la biographie.
Oui, en sus de ce livre sur les arrangeurs, effectivement. C'est vrai qu'on retrouve effectivement la couleur Mauriat-Aznavour dans les arrangements de Romain Trouillet sur les cordes. Exactement.
Mmh. Alors Mauriat et Robert, c'est des noms vraiment qu'on retrouve à plusieurs reprises dans ce très gros ouvrage, Serge Laïc. Un mot de François Robert, R-A-U-B-E-R, faut peut-être le préciser.
Complètement.
Vous le présentez comme l'aristocrate de la variété, et c'est vrai qu'il y a, donc d'après ce que vous nous dites, un vrai style, François Robert, et pourtant, il a travaillé avec des genres musicaux extrêmement différents.
Avec tout le monde, avec, je vais dire, par exemple, Jeanne Moreau, j'ai la mémoire qui flanche, c'est lui. Jacques Brel, donc tout quasiment, sauf les deux premiers disques. Juliette Gréco, énormément. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment l'aristocrate de la variété. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs un de ses régisseurs d'orchestre, Roger Berthier, qui travaillait avec lui et qui m'avait dit, j'appelle François Robert, l'aristocrate de la variété, il n'y a pas mieux que lui dans les arrangements. C'est peut-être pas exactement exact, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a imposé son style de grand classique, parce que c'était classique, lui. Il était originaire du Conservatoire de Paris, donc il avait vraiment une culture classique immense qu'il a mis au service de la variété.
Et il a utilisé un instrument, alors l'onde Martenot.
Oui,
alors expliquez-nous ce dont il s'agit, parce que c'est un instrument assez particulier, presque ésotérique même d'ailleurs.
Oui, c'est un instrument qui a été créé par un monsieur qui s'appelait Maurice Martenot, pas mal de gens l'ont utilisé, comme Messiaen par exemple. Et Jacques Brel avait demandé lui-même à François Robert d'utiliser l'onde Martenot dans Ne me quitte pas. C'est pas le contraire. On croit que c'est Robert qui avait toute l'attitude, François Robert qui avait toute l'attitude pour écrire pour l'onde Martenot. Pas du tout. C'est Jacques Brel qui écoutait énormément de musique, comme le dit Robert lui-même, beaucoup plus que moi, il disait, Robert. Oui. Brel était un fou de musique et écoutait tout.
Donc c'est toujours l'arrangeur au service
Et donc, de François Robert avait inclus dans la chanson Ne me quitte pas, la fameuse partie d'onde Martenot, qui est toujours un instrument utilisé d'ailleurs. Mais en tout cas, Maurice Martenot, qui était son inventeur, n'a jamais voulu le... plusieurs personnes avaient voulu racheter le brevet, mais lui voulait garder son bébé pour lui, il n'a jamais voulu le divulguer, et donc c'est resté assez confidentiel comme instrument, en tout cas pendant très très longtemps, jusqu'à sa mort en tout cas.
Serge Laïc, les plus anciens arrangeurs que l'on rencontre dans le livre ont commencé dans les années 20, ça va donc bientôt faire un siècle. Le métier a beaucoup changé avec l'évolution technologique.
Ah bah oui, d'ailleurs on peut dire que si les premiers arrangeurs sont nés, on va dire, au moment où la technologie a commencé vraiment avec le micro, c'est-à-dire en 1925. C'est là où on voit apparaître les premiers arrangeurs qui travaillent pour... Ils s'appellent Pierre Chagnon, pour Maurice Chevalier, par exemple, ou Albert Valzien, pour Berthe Silva, par exemple. Donc ces gens-là savaient déjà imprimer à l'orchestration des choses qui étaient à eux-mêmes, quoi, qui étaient vraiment... et qu'ils imposaient finalement aux chanteurs à l'époque.
L'air s'est rempli de sel qui tombe en pixels au bout de ma langue. L'eau se trouve à des bornes, paysage morne, on dirait l'Irlande. Me voilà à l'étal dans cet intervalle, pile entre deux eaux. Attends, marée montante, la lune qui t'aimante œuvrera bientôt. À bientôt. À bientôt renouveau, à bientôt renouveau, à bientôt.
À bientôt renouveau sur RFI, merci, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation.
L'album chez Barthé, vous serez en concert le 12 juillet au Francopholis de La Rochelle et en tournée dès l'automne prochain. Ça commence par la Bretagne. Il y a notamment un passage à Paris le 28 novembre à la salle Pleyel et le 14 décembre à Bruxelles. Merci également à vous, Serge Laïc.
Merci.
Les arrangeurs de la chanson française, c'est aux éditions textuelles. Un peu d'univers, hein. Ça s'appelle And a Child, c'est signé Martin May sur son nouvel album Words Without. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Ronan Luce et bonjour Serge Laïc.
Martin May, 35 ans, il s'est lancé depuis 10 ans avec pas mal de mini-albums avant d'en sortir un premier véritable et il nous en offre donc aujourd'hui un second.
Baptisé Words et en sous-titre, vous le disiez, Without, soit mot sans. Martin May, le jour de la publication du disque, poste ceci sur sa page. L'album sort enfin et je ne trouve pas les mots. Un concept.
Oui, eh bien, c'est vrai que cet album s'appelle Words, entre parenthèses, Without, donc avec des mots ou sans mots. Et ça peut vouloir... ça peut raconter différentes choses, mais notamment le fait que parfois on trouve pas les mots pour partager certaines émotions, ou parfois peut-être qu'il vaut mieux s'abstenir et que la mélodie simplement ou la musique parle d'elle-même, et que j'espère que simplement la mélodie peut rassembler et transmettre une émotion parfois aussi bien que quand on y met plus de mots. Donc Word, c'est le titre de l'album parce que ça a été une de mes recherches, ce travail de la mélodie sans les mots sur l'album, et aussi parce qu'il y a, c'est ce que je raconte dans ce morceau qui a pour titre Word, c'est que voilà, parfois moi j'ai tendance là à ne pas savoir trouver les mots juste pour répondre à ces questions de manière synthétique et concise. C'est pas ma spécialité, et donc c'est un challenge pour moi. de faire des chansons et de quand je fais de la musique d'être beaucoup plus efficace et d'aller directement de ma sensation, de mon inspiration à une émotion que tu peux recevoir directement.
Martin May, extrait de son opus intime aussi comme le vôtre, Ronan Luce, Words Without, des mots, des mélodies et un interlude de 44 secondes où il dévoile une répétition d'un bourdon avec les chœurs du conservatoire de Toulon à qui il demande de sourire en même temps.
Continue.
Martin May, vous pouvez sourire en même temps et les chœurs du conservatoire de Toulon. Martin May qui travaille aussi régulièrement, Alain, avec Fred Neffé, que vous avez d'ailleurs rencontré pour VMDN très récemment.
Il a noté sur ce disque aux sublimes arrangements, Serge Laïc, enfin c'est mon avis, la voix de la chanteuse Paulette Wright, trop tôt disparue, que Martin fait toujours apparaître sur scène. Autre apparition, alors qu'un des morceaux s'intitule Calm Down, Calm Now, qui ne dure qu'une minute 15, avec cette sorte de musique à l'envers. Serait-ce le retour au calme, à la sérénité pour Martin May? Ou était-ce juste une impression, Martin May?
Oui, c'est pas qu'une impression, c'est exactement le morceau Calm Down qui est mis à l'envers. Et j'ai fait ça un jour, je ne sais plus pourquoi. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un remix. Et puis finalement, non, je me suis dit que ça pourrait faire un interlude sur l'album parce que, effectivement, je trouve que ça fait du bien. Enfin, en tout cas, moi, cette boucle à l'envers m'a fait du bien. Effectivement, j'avais pas pensé que revenir en arrière peut me faire du bien. J'ai pas pensé à ça comme ça, mais peut-être que c'est pour le tourner différemment. C'est revenir en arrière, c'est peut-être embobiner, c'est peut-être prendre du recul en fait. Ça remet les choses en perspective d'inspirer. En fait, c'est comme si Calm Down, du coup, ce morceau-là, si c'était plutôt un. Voilà, du chant et de l'expiration, et ben, quand on joue, quand on écoute Calm Down, on inspire. Et ce mouvement-là, très naturel, ben, c'est aussi un moyen de se rappeler à ce mouvement-là de respiration dont on se déconnecte parfois un peu trop. Et évidemment, vu que le chant est au cœur de mon projet, de mon intention artistique et ce partage autour de la voix et de la respiration, ben, je pense que ça a du sens. Mais merci de m'avoir fait penser à ça, je ne l'avais pas vu comme ça.
Calm Down.
Calm Down, que nous avons mixé à Calm Now. Martin May tiré donc de son album sorti chez InX Music, l'autre distribution. Merci Alain. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.